Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. De nombreuses réactions après les violents affrontements dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Des policiers israéliens ont pénétré dans cet emblématique lieu de culte musulman. 350 Palestiniens ont été interpellés. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes a condamné dans les termes les plus forts l'assaut mené par les forces israéliennes. L'Égypte, médiateur traditionnel entre Israéliens et Palestiniens, a dit tenir Israël, puissance occupante, comme responsable de cette dangereuse escalade qui pourrait saper les efforts de trêve. Gros plan sur la situation au Liban, le pays qui vit une crise économique sans précédent. Le Liban, sans président depuis la fin octobre, un pays traumatisé par la tragique explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Notre invité sera le député Antoine Abchi, membre du bloc de la République forte. Pour la première fois, la justice française va juger trois responsables du régime syrien pour crimes contre l'humanité, un procès qui devrait avoir lieu par contumace. La rencontre entre la première ministre Elisabeth Borne et les syndicats pour tenter de sortir de la crise sociale autour des retraites s'est soldée par un échec. Une rencontre à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre cette réforme. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du PCF. Il estime que le gouvernement peut encore reculer. Extrait de votre édition. Une situation très tendue à Jérusalem après que la police israélienne a pénétré à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux saints de l'islam. Israël affirme que des agitateurs s'étaient barricadés à l'intérieur, armés de feux d'artifice et de bâtons. Plus de 350 Palestiniens ont été arrêtés. Des incidents qui surviennent en plein Ramadan et avant la Pâque juive. Dénonçant un crime sans précédent, le Hamas appelle les Palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse vers la mosquée Al-Aqsa pour la défendre. Après l'annonce de ces affrontements, plusieurs roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes a condamné dans les termes les plus forts l'assaut mené par les forces israéliennes. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a publié un communiqué condamnant l'irruption de la police israélienne à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa et l'agression contre les fidèles. Le ministère des Affaires étrangères de Jordanie a également condamné, selon ses mots, l'agression israélienne. La Turquie condamne des affrontements inacceptables. La diplomatie libanaise a également réagit avec ces mots. La facilité avec laquelle les responsables israéliens violent les lieux saints musulmans et chrétiens et réitèrent les agressions contre leurs domiciles, propriétés et terres résulte du fait qu'Israël échappe à chaque fois à des sanctions. Réaction aussi de l'Allemagne. Berlin exprime sa préoccupation et appelle tous ceux ayant de l'influence sur la situation à tout faire pour ramener le calme. Gros plan à présent sur la situation au Liban, le pays qui vit une crise économique sans précédent. Le Liban, sans président depuis la fin octobre, un pays traumatisé par la tragique explosion du 4 août 2020. La revue politique et parlementaire a récemment organisé une conférence intitulée « Explosion du port de Beyrouth, une enquête à l'arrêt ». Entretien avec le député Antoine Abchi, membre du bloc de la République forte.
Cette crise sans précédent a une cause bien spécifique. Au Liban, il y a une absence de la souveraineté de l'État qui se rallie à la corruption. La présence de Hezbollah est une présence qui fait vider les institutions étatiques officielles de son sens. Le Hezbollah prend les décisions stratégiques avec un agenda qui va au-delà des frontières libanaises et qui est aligné sur celle de l'Iran. Donc, il prend la décision stratégique de guerre épée. Il ne permet pas l'application des résolutions de l'ONU. Donc, il met le Liban dans un problème très grave avec son entourage arabe parce qu'il intervient, que ce soit en Syrie militairement ou il y a eu la découverte de plusieurs réseaux militaire ou sécuritaire dans plusieurs pays arabes, comme il intervient près d'Houssi au Yémen. Et il ne faut pas oublier qu'il annonce une politique étrangère qui n'est pas consentie dans le gouvernement libanais ni au Parlement, au sein du Parlement. Pour cela, il met le Liban en opposition avec son entourage arabe, mais davantage avec les trafics de drogue, le blanchiment d'argent. Et vous avez participé à un reportage qui a décortiqué ces réseaux partout dans le monde et même en France. Il met le Liban encore dans une opposition face à la communauté internationale. et à l'empêchement de l'application des résolutions de l'ONU, essentiellement le 1557 et le 1701. En même temps, pour pouvoir ou pour gagner de la couverture politique, il a besoin des alliés politiques qui assurent la couverture de ses armes et de son État, qui est un État hors loi au Liban, qui est un État qui fait manquer à l'État libanais sa souveraineté. Donc, ses alliés qui assurent sa couverture plongent dans la corruption. Il est obligé d'un côté d'assurer la couverture à la corruption de ses alliés, et ses alliés couvrent son agenda qui va au-delà des frontières libanaises et permettent un consentement sur l'absence de souveraineté libanaise. Rien qu'à signaler le CPL, on voit le tandem chiite qui va dans ce même sens. Voilà la situation ou le nœud des problèmes au Liban. Effectivement, une des conséquences, c'est le tandem chiite qui fait perdre le quorum chaque fois qu'on est en train d'élire un président, parce qu'il gagne davantage du temps, et avec les problèmes socio-économiques, ils font parvenir le peuple libanais et les autres partis politiques à un état de désespoir pour accepter avec eux n'importe quel candidat. Or, n'importe quel président qui arrive à la présidentielle au Liban et qui n'a pas un positionnement très clair vis-à-vis de la souveraineté libanaise, essentiellement de l'action de Hezbollah et de la corruption. Lorsque je dis un positionnement vis-à-vis de la corruption, c'est pas uniquement un positionnement qui est verbal, mais il faut que un tel personnage ne soit pas impliqué dans la corruption. Cela ne va pas mener à résoudre les problèmes du Liban. Par contre, ça va renouveler la crise pour 6 années à venir, et le Liban, sa crise est multidimensionnelle. Certes, au niveau de la gouvernance politique, c'est là où réside le problème, mais les conséquences sont très claires. Il y a une dévaluation énorme de la monnaie, de la valeur de la monnaie libanaise. Il y a de la contrebande qui fait perdre au Liban sa monnaie étrangère. Et il y a une corruption énorme au niveau étatique. Rien qu'à voir que la dette des 100 milliards de dollars, on ne voit pas ses traces nulle part au niveau de l'infrastructure libanaise. Donc une crise multidimensionnelle. Mais la porte pour résoudre ces crises, c'est de réinstaurer la souveraineté libanaise afin de pouvoir établir un état de droit et un état de loi, et d'aller vers la réduction ou la lutte contre la corruption.
Vous êtes député au Liban face à cette crise inédite, cette situation économique catastrophique, cette chute de la livre. Tout simplement, comment font les Libanais pour vivre aujourd'hui ?
Je ne sais pas si les Libanais vivent. Il y a un état de survie. Et cet état de survie, je ne dirais pas que la communauté internationale, quelque part, il y a un accompagnement. Merci pour la France, parce que son intervention au niveau éducatif et autres a été un élément essentiel jusqu'à maintenant dans la survie des écoles, et même à d'autres niveaux, au niveau social et autres. Mais je dirais, l'élément le plus important qui va permettre de résoudre ces problèmes, c'est pas l'aide au niveau, uniquement l'aide à ce niveau, c'est surtout la pression politique qui va permettre de redonner au Liban sa souveraineté. Un des moyens qui va permettre cela, c'est de parvenir à un comité international qui cherche à rétablir les faits concernant l'explosion de Beyrouth. Et dès le premier moment, on sait très bien que le gouvernement libanais ne voulait pas de cela. Le Hezbollah a été complètement contre. Il a même menacé un des juges d'instruction qui était en train de mener l'enquête. Et on voit aujourd'hui que l'enquête est bloqué. Si l'impunité demeure la règle de jeu au Liban, alors celui qui cause le malheur aux Libanais va continuer à le faire. Pour cela, la France, essentiellement la communauté internationale, est appelée à établir justice.
la communauté internationale, la France notamment, qui attend peut-être la fin de ce vide présidentiel avant d'intervenir.
Oui, attendre la fin du vide présidentiel, c'est-à-dire faire pression pour qu'il y ait élection, et pour qu'il y ait élection au vrai sens du terme. Ce qui s'est passé depuis 6 mois jusqu'à nos jours, c'est un blocage du tandem chiite avec le CPL qui continuellement faisait disparaître le quorum parce qu'ils ne veulent pas un président qui ne poursuit pas leur politique et leur stratégie. Alors que n'importe quel président qui poursuit leur politique et leur stratégie va continuer à mettre le Liban face à la communauté internationale. Ça va continuer à faire, à chapeauter un trafic de drogue. L'État libanais ne va pas être efficace à gagner sa souveraineté. Pour cela, ce qui est important, c'est de vraiment garantir l'exemple démocratique qui a été pratiqué en France au temps de René Coty. 13 séances de suite pour élire un président. Et d'ailleurs, on ne pratique pas le blocage. La démocratie, c'est quoi? C'est lorsqu'on n'est pas d'accord, on réserve à la démocratie la possibilité d'élire. Et bloquer dans ce sens, c'est un outil utilisé pour obliger les Libanais à accepter un président qui ne va pas recouvrir la souveraineté de l'État libanais et qui ne va pas pouvoir lutter contre la corruption. C'est comme si on persévère avec le même problème. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Un grand espoir a gagné le peuple libanais avec l'intervention et la visite du président Macron. Et voilà, il y a eu une carte de route proposée par le président français au Palais des Pins, qui a été acceptée par Hezbollah. Mais on a vu comment, dans la pratique, le Hezbollah a vidé cette carte de route de tout sens pour continuer avec la même pratique.
Le député libanais Antoine Abchi, membre du bloc de la République forte. 3 hauts responsables du régime de Bachar al-Assad seront jugés en France pour crimes contre l'humanité, une première en France. Ils seront jugés par contumace pour la mort de 2 citoyens franco-syriens, Mazen Dabag et son fils Patrick, arrêtés en 2013. Une décision dont se félicite la Fédération internationale des droits de l'homme, le Centre syrien pour les médias et la Ligue des droits de l'homme. Ces 3 ONG qui sont parties civiles dans le dossier. En France, la journée de jeudi sera à nouveau marquée par la mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues dans de nombreuses villes, notamment Paris. À la RATP, le trafic sera quasi normal, contrairement aux précédentes journées de mobilisation. En revanche, le trafic sera perturbé à la SNCF. L'aviation civile a demandé d'annuler 20% des vols dans les aéroports. L'intersyndicale a été reçue ce mercredi matin par Elisabeth Borne, qui a réaffirmé qu'elle ne modifierait pas sa loi. Les syndicats se sont retirés et parlent d'un échec. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dénonce la stratégie jusqu'au boutiste, violente et irresponsable, dit-elle, du gouvernement. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du PCF. Il estime que le gouvernement peut encore reculer sur la réforme des retraites, extrait de cette émission.
Bien sûr, il peut et il doit même reculer parce qu'on est face à un mouvement social exceptionnel. C'est une très grande réussite, une très belle unité syndicale, une unanimité à gauche pour soutenir ce mouvement social. Et d'ailleurs, qui, à l'Assemblée, on avait dit que le gouvernement a été, malgré une Assemblée très à droite, en très grande difficulté pour pouvoir faire adopter son projet de loi, qui a d'ailleurs même un risque important de non-constitutionnalité. Donc bien entendu, la réforme peut encore être battue, peut encore être rejetée. Et c'est tout l'enjeu de cette mobilisation qui doit, une fois de plus, je dirais, être massive, parce que rappelons-le que ce grand mouvement de mobilisation est le plus important depuis 30 ans en France et est soutenu par plus de 90% des salariés. Donc c'est un mouvement massif, très bien encadré par les syndicats, et il faut les remercier, l'ensemble des directions syndicales et des syndicalistes.
Mais on a le sentiment que le gouvernement essaye aujourd'hui d'aborder d'autres sujets parlementaires pour tourner la page de la réforme des retraites. Le président s'est exprimé sur la fin de vie, il est en visite en Chine. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que les Français sont passés à autre chose ?
Ah non, pas du tout, parce que un gouvernement essaye de faire diversion, mais on voit bien que ça ne marche pas, parce que dès que un membre du gouvernement ou le président fait un déplacement, immédiatement il y a des manifestants, et le rejet est toujours aussi massif. Ça fait bientôt 3 mois que ce mouvement social est engagé depuis le 19 janvier. Et on n'a jamais vu d'ailleurs un soutien aussi massif, même qui se renforce, et des manifestations aussi nombreuses près de 3 mois après le lancement. Donc c'est exceptionnel. Et c'est à ce titre que le gouvernement doit, et le président de la République, doivent reculer. On voit bien d'ailleurs que le gouvernement est totalement démonétisé, puisque Elisabeth Borne, maintenant, son crédit politique est tombé à zéro, elle est très largement critiquée. Donc on voit là, un pouvoir en très grande difficulté, et grâce à la force du mouvement citoyen et syndical contre cette réforme injuste.
Que la réforme des retraites passe ou pas, est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire adopter d'autres lois dans les mois qui viennent, Jacques Baudrier, ou bien vous avez le sentiment que son quinquennat est aujourd'hui bloqué?
Il est complètement bloqué, puisque son credo antilibéral, je dirais pro-capitaliste, basique, qui nie toutes les réalités liées au changement climatique, qui nie toutes les réalités liées aux inégalités sociales, et refusé très largement et massivement maintenant par une grande partie de la population. Donc clairement, il est bloqué, et pour pouvoir relancer son quinquennat, il devra totalement changer de choix politique, ou autrement, on assistera à une longue attente de plus de 3 ans avant le lancement de la prochaine campagne électorale présidentielle. Mais ouais, clairement, il est dans un état... Alors toute la presse s'en fait l'écho.
Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du PCF. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.